Moi, je voudrais juste avoir des précisions sur contenu et activité. Parce que chez moi, en Nouvelle-Calédonie, on donne une priorité dans les programmations à ce qu'il y ait une progression au niveau des contenus. Et on ne demande surtout pas aux enseignants d'entrer par l'activité. Donc, je veux juste des précisions pour mieux comprendre et voilà.
Oui, donc, l'idée, c'est de dire que justement, ce qu'on demande à l'enseignant, c'est de reproduire quelque chose qui est très séquentiel et de faire du contenu. D'une part, parce que d'abord, ça fait partie de ses compétences d'être expert du savoir. Et la démarche séquentielle, c'est quelque chose qu'il connaît. De ce fait, c'est quelque chose qui reste pertinent d'un point de vue pédagogique. C'est ça que j'ai essayé de dire hein, par rapport à l'intérêt de la linéarité. Mais d'un autre côté, les potentialités des technologies actuelles, elles ne sont pas utilisées. Donc on reproduit des modèles, même s'ils sont pertinents, qui datent des années 70-80, si je puis dire, voire des fois hein, encore un peu avant. Et on ne s'adapte pas aux potentialités des technologies. Parce qu'on peut aussi estimer, mais ça je ne sais pas, que le rôle de l'enseignant, ce n'est pas de piloter une activité. Ce n'est pas de tutorer. Et donc du coup, c'est dans la personne qui imagine ce scénario, sa formation, eh bien il a identifié des acteurs, des enseignants pour ceci, d'autres personnes pour tutorer ou peut-être les mêmes. Et c'est ça, imaginer un scénario avec des acteurs. Et si vous pensez à l'activité, forcément c'est vous qui allez avoir tendance à piloter cette activité. Mais pensez à un enseignement en ligne pour favoriser la navigation, un environnement ludo-éducatif, comme on appelle ça, sans favoriser l'activité, ou sans penser à l'activité d'apprentissage réellement, en disant que l'activité, c'est le ludique et c'est pas le pédagogique, à ce moment-là, il y a, de mon point de vue, une difficulté, quoi. Il y a un manque de cohérence. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Donc, en fait, on s'interrogeait un petit peu toutes les deux, on a eu la même réaction. Par rapport au modèle théorique que vous proposez,
oui.
Moi, il me semble qu'il y a un souci quand même assez important. Comment on peut articuler l'absence de présentiel avec des modèles socio-constructivistes, sachant que, alors nous, on intervient un peu en amont, la maîtrise des outils est peut-être sûrement plus un problème au niveau universitaire, mais c'est une vraie difficulté que j'ai du mal à formuler, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir des modèles de référence socio-cognitifs ou socio-constructivistes quand on n'est pas en présentiel? Est-ce qu'il ne faut pas remettre d'autres éléments à penser dans ce cadre-là? Parce que il n'y a pas le corps, il n'y a pas la voix de l'autre. On sait très bien toutes les confusions qui peuvent naître d'une communication à distance en ligne. On a tous reçu des mails qu'on a trouvés odieux, pas très sympathiques, alors qu'en fait ils étaient écrits. Il n'y avait pas d'intention néfaste, mais on les a mal reçus parce qu'il n'y avait pas tout l'environnement. Donc je me demande s'il n'y a pas un dépassement de ce modèle théorique à penser ou qui a déjà sûrement été fait, mais voilà.
Alors, un dépassement, je ne sais pas, mais je vous ai donné deux indices. Je vais donc rappeler. La première chose, c'est que l'hybridation, donc c'est le renforcement du présentiel qui va améliorer la réussite. Je vous l'ai donné, plus que le travail collaboratif. Donc là, déjà, je réponds en partie à votre question. Deuxième chose, la formation à distance, Ça n'exclut pas quelques regroupements. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons au moins deux regroupements. Un en début d'année pour présenter la formation, créer du lien social, dans lequel d'ailleurs le tuteur va présenter va établir le contrat didactique, si vous voulez, va présenter non pas le cours du point de vue disciplinaire, mais sa méthode de travail en ligne. Et ensuite, ils travailleront en ligne. Bon, et on se verra plus jusqu'à la fin de l'année pour des épreuves sur table et une régulation de la formation. Donc il y a quand même un petit moment présentiel. Donc ça ne veut pas dire qu'on exclut complètement le présentiel. La formation à distance, c'est lorsque le présentiel est minime par rapport à la distance. Sinon, on est dans le cadre d'une formation ouverte et à distance. Hein, si on a beaucoup de présentiel. Bon. La deuxième chose, et c'est là, c'est que le tout collaboratif, c'est pas bon. Parce que c'est pas pertinent, parce que l'apprenant, il a besoin aussi de travail individuel à des moments donnés. Néanmoins, le collaboratif fonctionne pour créer du lien social, pour se construire des valeurs. Donc ça, ça permet aux étudiants de se maintenir dans la formation, de s'entraider. Mais il faut que le scénario collaboratif soit pensé dans la durée de la formation et que les activités individuelles comme les activités de groupe soient séquencées dans la durée de la formation. Tout ça, ça doit être prévu. C'est pas je fais un travail collaboratif pendant 2 mois et après ils n'ont plus rien. C'est comment je pense à la durée impartie de la formation, le temps d'activité de groupe, le temps d'activité individuelle, etc. Et dans ce qu'on a constaté, c'est que notamment dans le premier travail collaboratif qu'on effectue, la constitution des groupes est libre. C'est-à-dire que c'est eux qui vont... Alors, ils se sont vus une première fois, ils ont eu quelques affinités, et c'est eux qui vont créer leur propre groupe. Et pour ça, ils vont le prendre en fonction du lieu géographique où ils habitent, mais ils vont aussi le prendre en fonction de compétences qu'ils pensent être bonnes chez la personne pour réaliser l'activité. Donc ils vont demander qu'est-ce qu'elle fait, où elle travaille, quels sont ses champs d'expertise, etc. Et donc il y a tout comme ça une phase d'essayer de reconnaître qui est l'autre, en tout cas, d'apprendre de l'autre. Et du coup, quand ça prend, ça marche pas à tous les coups, mais souvent ça marche, ça permet de créer du lien social, ils s'entraident entre eux, et voilà. Et donc c'est un modèle qui est pertinent s'il est pensé dans la totalité de sa formation, d'une formation. C'est pas quelque chose qui doit être isolé. Et d'ailleurs, de plus en plus, si vous remarquez, les travaux qui travaillent, on travaille plus trop sur les communautés, hein, c'est un peu fini, c'est passé de mode. On travaille donc sur le lien social. Dans le lien social, il y a à la fois le fait de communiquer, de collaborer, mais il y a aussi le fait de partager. Et donc, il y a des modèles du lien social qui expliquent ça. Entre partager des informations, qui est un lien donc vertical, qui fait que le lien de social n'est pas très fort, et le partage des valeurs, qui est donc l'aspect horizontal du graphique, qui fait qu'au plus on partage des valeurs, au plus le lien social est fort. Et donc, vous constatez, et si je dois être provocateur, qu'il y a Mythique. À la télé, on fait la pub de e-darling, là, c'est pas un truc comme ça. Il y a plus proche de nous Facebook, et que on peut collaborer, ou en tout cas entamer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour lequel on a des objectifs communs, et partager, construire des valeurs. Et que le principe du réseau Internet, et qui est mis à débat, et qui est un débat qui date, notamment entre Pierre Lévy et Geneviève Jacquinot, pour les citer, ou Monique Linard aussi, c'est que d'un côté, il y a des personnes qui pensent qu'on va vers une nouvelle forme de socialisation, Pierre Lévy, qu'on va créer du nouveau lien social, que du savoir se partage par des individus dispersés dans le monde, quelle que soit leur expérience, leur niveau de connaissance, et d'autres personnes qui pensent que que Internet nuit à la société parce que ça détruit des valeurs sociales. Et ça, de mon point de vue, la question que vous posez est plutôt celle-ci à travers le travail collaboratif, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse définitive. Mais on voit qu'il se passe quelque chose quand même avec Internet. C'est-à-dire qu'on peut partager des valeurs et se construire un lien alors qu'on ne voit pas les personnes et on ne les connaît pas. Donc, ce n'est pas le modèle socio-constructiviste qui est forcément prédominant, c'est la manière de conduire l'activité collaborative. Et par exemple, si je dois donner mon exemple, parce que comme ça m'évite de prendre ceux de collègues, qui en général fonctionne pas trop mal, je suis forte, l'interaction est forte, c'est-à-dire que ils ont des régulations par forum une fois par semaine, et toutes les donc par exemple ils ont 5 activités, ils doivent choisir une activité parmi 5 possibles, et pour chaque activité au départ il y a un chat d'une heure, au bout de 3 semaines ça fait 5 heures de chat au sein de l'activité. Ils vont après constituer des groupes parce qu'ils doivent problématiser à partir de l'activité. Et donc après, je fais un chat avec chaque groupe. Donc, la présence à distance est forte. C'est ça qui fait la différence. Le travail collaboratif, ça ne veut pas dire d'être absent à distance. Ça veut dire, dans le scénario d'encadrement, de prévoir des moments de distance où la présence est forte. Et le théâtre comme la classe virtuelle sont des moments très recherchés par les apprenants.
Je vous dis où est mon point nodal. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui m'interpellent. C'est, nous, on vit une expérience au quotidien qui est le groupe classe. C'est-à-dire qu'on est rassemblés dans un lieu et il y a une très forte demande du corps social. Là, je pense que ça vient pas tellement des enseignants, ça vient vraiment du corps social, que ce lien perdure en dehors de ce temps où on les reçoit. Alors ce que vous dites sur le fort investissement, la présence du chat, on a toujours une crainte et il y a une vraie crainte chez les enseignants que, par exemple, le développement des ENT, le développement d'un certain nombre de choses implique une présence 24 heures sur 24, implique la... Bon, on a déjà tendance à faire déborder notre vie professionnelle sur notre vie personnelle, puisqu'on ramène les copies à la maison, je ne sais pas, vous êtes tous comme moi. Et donc, après, il y a ce fantasme-là, c'est-à-dire de la présence totale de l'enseignant, autant de disponibilité de son... Donc, les dispositifs que vous présentez sont très intéressants, de dire qu'on limite, il y a un chat une fois, deux fois par semaine, c'est vraiment intéressant et je pense que ça doit être mis en avant pour rassurer aussi, dire que on peut faire du à distance ce qui est intéressant c'est que vous c'est pas un prolongement de la classe, c'est à la place de ce que vous proposez. Voilà. Alors que nous, très souvent, ce qu'on va nous proposer en tant que dans le second et le premier degré, c'est du en plus du prolongement du les élèves absents, comment ils récupèrent, enfin c'est tout à fait d'autres possibilités de scénarisation. Et puis la deuxième question que je me posais, c'est il y a un nombre croissant d'enseignants qui mettent leurs cours en ligne. Et du coup, il y a des vraies questions dans ce que vous posez sur les scénarios de ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est mettre en ligne la trace écrite d'un cours vécu? Ce qui peut être intéressant, c'est toutes les questions qu'on se pose autour du cahier de texte numérique qui va devenir obligatoire. Enfin, qu'est-ce qu'on met dessus, quoi? Est-ce qu'on met juste le titre du cours comme ce qu'on faisait dans l'ancien cahier de texte? Est-ce que c'est une incitation à mettre plus? Et en plus, vous parlez bien de cette espèce de collaboration. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me garantit si je mets en ligne mon cours que ce sera pas piraté par les élèves de ma voisine, que on va, enfin voilà, il n'y a plus d'autorialité du tout. Donc vous êtes au cœur de questions qui sont vraiment d'actualité pour les enseignants. Et je vous dis, c'est pas une réticence par rapport à l'introduction de l'outil, c'est vraiment qu'est-ce que ça change dans notre professionnalité. Parce que vous dites ça déplace dans le rôle du tuteur, oui, tout à fait. Sauf que on est encore dans le rôle du transmetteur quand on les retrouve en classe.
Oui.
Donc c'est des choses. On en parlait, on a eu une conversation sur Facebook sur plein de choses dans le cadre du. Mais c'est à quel moment on fixe une barrière et est-ce que ces barrières peuvent être personnelles ou est-ce que institutionnellement on va nous dire. Faut ça ou ça. Mais peut-être que vous pouvez pas répondre.
Non, là, je peux pas. Très bien. Ben voilà. D'accord. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est simplement que effectivement, c'est quelque. Il faut définir les rôles de chacun. Et moi, je suis dans le cadre d'une formation à distance, donc c'est pas pareil que la classe. Et qu'il faut définir les moments d'intervention de chacun. Il n'y a pas de. C'est vrai que sinon, c'est chronophage. Sinon c'est chronophage, donc moi j'ai pas c'est quelque chose qui doit être encadré, mais il y a aussi une responsabilité institutionnelle de savoir justement à définir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cahier de texte, quels sont les acteurs impliqués, à quel moment, etc. Ça existe déjà pour les notes, vous mettez vos notes, maintenant vous les remplissez en ligne. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la raison principale de cette commande. Je crois pas que ça soit une question forcément pédagogique.
Voilà. Oui, peut-être juste une remarque. Moi, j'ai apprécié justement la réflexion que vous avez pu. Enfin, je sais pas si j'ai.
Oui, allez-y. Puis après, je vais passer la parole à mon collègue. Voilà.
C'est à propos de la. Enfin, voilà, ce qui m'intéressait, c'est le rôle de l'enseignant face au complexe, c'est-à-dire face à un objet complexe qui est ici la lecture sur écran et la navigation dans l'écran. Ce que je remettrais en cause dans ce que vous avez dit et assez fortement, c'est la façon dont vous considérez le littéraire, c'est-à-dire que la façon dont vous avez, tout ce que vous avez appelé littéraire dans votre propos, je ne reconnais pas là les caractéristiques du texte littéraire, à savoir que le texte littéraire est un texte complexe, non linéaire, et c'est bien pour ça qu'on peut le faire étudier par extrait en classe et qu'on n'est pas obligé de commencer au début et de finir à la fin, et que l'écriture elle-même, on le sait par la génétique des textes aujourd'hui, n'est pas linéaire non plus, et ces textes-là jouent d'hyperliens qu'on appelle anaphores, qu'on appelle cataphores, et qui permettent de construire un sens de façon complexe. Et du coup, voilà, ce que ça me fait penser, donc, à part, donc, cette réserve faite, il me semble que ce que vous montrez bien, c'est qu'il peut y avoir, pour les enseignants de lettres que nous sommes, une analogie entre l'approche qu'a pu proposer Catherine Tauvron de l'approche de la complexité du texte, et donc le rôle du maître dans ce cas-là, qu'elle dit meneur de jeu, c'est-à-dire qui est accompagnateur, meneur de jeu, organisateur, et face à l'objet Internet, on pourrait avoir le même type de rôle de l'enseignant qui serait de venir construire du sens, produire du sens à partir d'espaces modulaires plutôt que d'un espace linéaire. Mais je pense que votre opposition, ce que je remets en cause, c'est votre opposition entre littéraire linéaire et non littéraire non linéaire.
Oui, oui. Non, mais en même temps,
ce que vous dites, je le trouve juste.
En même temps, je le comprends. Et d'ailleurs, même la rédaction elle-même n'est pas linéaire. Quand on lit un texte papier, c'est pas, on n'a pas notre œil ne fonctionne pas de manière linéaire. Ce que je voulais peut-être pour apporter une précision, donc je suis sur votre remarque qui me semble tout à fait judicieuse et pertinente, c'est que si vous êtes dans une modalité de transmettre un savoir et que vous devez imaginer la forme que ça prendrait d'un point de vue numérique, et souvent la tendance qui est appelée scénario littéraire pour scénario de transmission des savoirs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là peut-être où il y a une différence, c'est que c'est du moment où on le transpose, le scénario qu'on appellerait littéraire, qui donc n'est pas une manière de faire apprendre la littérature en tant que telle, voilà, va se transformer ou va se transposer beaucoup de cette manière. Vous-même, si vous devez imaginer un scénario, du coup, pour apprendre la littérature à des jeunes, ou si vous regardez la littérature de jeunesse, par exemple, comment vous le transposeriez en ligne? Et est-ce que vous arriverez à faire du non linéaire? Voilà. C'est là où souvent on revient vers quelque chose de beaucoup plus classique dans la forme. Voilà. C'était ce point-là que
oui,
je voulais
soulever. Et je vous remercie vraiment parce que c'est une problématique qu'on a largement, par exemple, en IEFM Midi-Pyrénées, est-ce que oui ou non on va mettre des cours en ligne, à quelles conditions?
Voilà,
c'est ça. Et là, ça, vous avez apporté beaucoup d'éléments là-dessus.
Merci.
Et je vous remercie.
Merci.